Sœurs et frères, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire d'un récit aussi minuscule? Trois versets seulement, pas plus. En plus, il nous raconte un petit miracle, si l'on compare ce miracle au grand miracle de Jésus, la mer apaisée, la multiplication des pains, la résurrection de Lazare dans un autre évangile. Pourquoi Marc a-t-il attaché une si grande importance à la guérison d'une vulgaire grippe? Eh bien, frères et sœurs, il y a, je le crois, je vais essayer de le montrer, je crois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, de réellement extraordinaire dans ce récit, quelque chose même qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'Évangile, quelque chose de tout à fait étonnant, c'est la banalité. J'avais prévu un jingle juste après ce mot-clé. La banalité qui s'invite dans l'Évangile. Et ça, on n'a pas l'habitude. On voit Jésus, ici, faire des choses communes. Des choses que nous faisons tous les dimanches. Il va au culte. Et puis, il sort du culte pour aller manger entre amis. Là, autour du repas, Simon lui parle de sa belle-maman qui est malade à la maison. Voilà un gendre attaché à sa belle-mère. C'est peut-être ça d'ailleurs le côté spectaculaire, n'est-ce pas, de ce récit. On s'inquiète pour belle-maman. On parle à Jésus de son état de santé. Une vilaine fièvre, une vilaine grippe qui la cloue au lit. Elle qui est si active d'habitude, la pauvre. Le docteur est passé, il a dit que ça allait passer. Il a donné quelques plantes à infuser. Voilà, là, je rajoute, parce que le récit est tellement petit que, vous voyez, j'ai envie de développer. Mais le passage reste court. Ce Jésus banal, simple ami qui vient manger à la maison après le culte, c'est pas si habituel que ça. Ce Jésus-là qui se glisse dans le train-train de la vie ordinaire, comme nous nous glissons dans le train-train de nos vies ordinaires. Un Jésus, en somme, qui sait faire autre chose que prier, lire la Bible, marcher sur l'eau, nourrir des foules, ressusciter les morts. Un Jésus qui salive aux fumées d'un bon gigot d'agneau, bardé d'ail, et d'une cruche de vin rouge que Pierre a tirée de sa réserve personnelle. Ça y est, je suis reparti. J'invente à nouveau, ce récit est tellement court, tellement petit que j'ai du mal à en rester là. Mais l'idée est là, cette scène est d'une affligeante banalité, mais elle m'inspire. Cette guérison d'une simple grippe par un Jésus normal ne doit pas nous laisser indifférents. Et pas seulement parce qu'elle est écrite dans l'Évangile. Alors on se dit, elle est là, donc c'est sacré, c'est important. C'est pas seulement pour cela, mais parce que derrière ces apparences de banalité, de vie ordinaire, jusqu'aux limites de l'ennui, eh bien, je crois que c'est le salut du monde qui se joue. Là, au cœur de la vie ordinaire. Et pour ça, on va approcher un peu notre loupe. On va essayer d'observer de près les déplacements de Jésus, ces mouvements, on va le voir, qui forment des cercles concentriques de plus en plus resserrés. Alors, je vais le faire, hein, merci, là, pas trop vite, s'il vous plaît, merci. Des cercles concentriques qui finalement amènent Jésus à se rapprocher peu à peu du cœur de la scène, du récit. D'abord, Jésus sort de la synagogue. Il est allé au culte un samedi matin. OK. Puis, il se rend à la maison de Simon. Puis, il s'approche de la belle-mère de Simon. Trois cercles concentriques où les choses deviennent de plus en plus définies. Et vous voyez que la présence de Jésus n'est plus seulement pour le village, on est à Capharnaüm. Elle n'est plus seulement pour la maison de Simon. On est arrivé à un huis clos. Jésus ne se tient plus là seulement pour la maison. Il se tient maintenant auprès de cette seule personne malade. Il n'est pas venu pour ça, mais il s'ouvre à l'imprévu de Dieu, et il va franchir le mur de la solitude où se trouve cette femme malade. Il va franchir cette distance qui est en fait assez irréductible entre les malades et les bien portants. On ne parle pas souvent de la solitude des malades. Et là, Jésus franchit cette solitude. Il n'a pas peur d'être contaminé. Il s'approche tout près. Et là, il fait le geste de l'amitié. Ce geste que vous avez peut-être échangé ce matin entre vous. Vous avez pris la main de quelqu'un. Vous avez fait une bise, peut-être. Il lui prend la main. Ensuite, main dans la main, il la fait lever. Et à propos de ce verbe « lever », et c'est jamais un hasard dans le Nouveau Testament, on peut traduire ce verbe par « il la fit lever, ressusciter ». C'est le même verbe qu'au matin de Pâques. Lever, relever, c'est le verbe de la résurrection. Cette femme n'est pas morte, elle a seulement de la fièvre. Et pourtant, Jésus estime qu'elle a besoin de résurrection. Comme si sa grippe était le signe d'un mal plus profond. Un mal dont on ne guérit qu'au travers d'une résurrection. Il faut qu'on dise deux mots quand même sur cette fièvre. Parce que attraper la grippe, la fièvre, au temps de Jésus, c'était interprété comme recevoir une punition de Dieu. J'ai trouvé le verset biblique, Deutéronome 28, 22. Je vous le cite, ça annonce la couleur, hein. Si vous n'obéissez pas au commandement, vous attraperez, entre autres mots, la fièvre. On ne peut pas être plus clair. Alors, on peut en rester au sens immédiat. Hein. Jésus guérit un malade de la fièvre, très bien. Mais on peut aussi chercher à s'ouvrir à la symbolique du récit. Qu'est-ce que cette fièvre signifie au-delà de ce que le thermomètre indique? Quand je m'éloigne de Dieu, on a tous fait cette expérience-là? Oui? Je m'enflamme de fièvre très bien identifiée, qui s'appelle l'autosuffisance, qui s'appelle le désir de posséder. Ce besoin maladif d'être le premier, de dominer les autres, sans jamais le dire d'ailleurs, hein, juste en cherchant à imposer mes points de vue. Je ne supporte pas qu'on pense différemment de moi. Cette fièvre-là est un feu intérieur dévastateur et qui, en plus, c'est un feu dévastateur qui ne se satisfait jamais de ce qu'il dévore. Il en veut toujours davantage. Nos vies deviennent brûlantes de désirs contraires à l'Évangile, c'est-à-dire contraires à la parole de Dieu, contraires aussi à la vie que Dieu nous invite à vivre, aux relations telles que Jésus les établit avec chacun. Est-ce qu'on n'a pas besoin, comme cette femme malade, de laisser Jésus, le Christ, entrer chez nous, s'approcher de nous, s'asseoir à notre chevet, au chevet de nos vies malades, prendre notre main et prononcer une parole libératrice, une parole qui relève, qui rend la vie. Et si on revient encore sur les mouvements de Jésus, dans ces trois versets, on peut y repérer, y discerner une dynamique évangélique de la guérison spirituelle. Alors là, que tous ceux qui se sentent spirituellement malades, maintenant, là, écoutent bien. Au verset 29, « En sortant de la synagogue, Jésus se rend à la maison de Simon et d'André. » Voilà le premier pas pour entrer dans cette dynamique de guérison spirituelle. Il faut commencer par sortir de sa synagogue. On ne peut pas rester au chaud entre nous. L'Église n'est pas un lieu de vie consacré au confort de l'entre-soi. Elle est juste un endroit où l'on passe pour entendre la parole de Dieu, la méditer ensemble, puiser dans cette parole des forces vives pour sortir et repartir au combat. Bienvenue donc à chacun dans cette église où il fait bon vivre, je crois. Mais n'oubliez pas de repartir. Pas seulement physiquement, tout à l'heure, en prenant votre voiture, de repartir au combat de la vie. Parce que c'est en sortant, c'est en prenant le risque de quitter le nid douillet, l'abri sécurisé, qu'on peut vivre la rencontre et faire l'expérience de l'inattendu de Dieu, comme Jésus chez Simon ce jour-là. Je connais des chrétiens, mais je suis sans doute un peu comme ça aussi. Je connais des chrétiens qui n'ont que des amis chrétiens, qui ne partent en vacances que dans des centres chrétiens, qui n'écoutent que de la musique chrétienne, qui ne joue au foot qu'entre chrétiens, qui ne rit qu'avec des blagues chrétiennes. Ça, je ne sais pas si ça existe, mais bon, tant pis. Et s'ils pouvaient manger des menus chrétiens au restaurant chrétien, ce serait le paradis. Mais si nous restons là, dans cet entre-soi, comment nos pas vont-ils pouvoir croiser ceux d'un malade de la vie ? Comment pourrons-nous nous approcher de celui qui a besoin du Christ ? Comment prendrons-nous soin de lui et lui prendrons-nous la main ? Et lui dirons-nous quelque chose de l'affection de Dieu pour lui ? Si nous restons entre nous, dans la synagogue libriste, comment ceux qui ont besoin de soins, qui ont besoin de Dieu, besoin de nous, seront-ils visités, vivifiés, relevés, restaurés? Il est dit ensuite que la belle maman de Simon était couchée avec sa fièvre et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Remarquez que Pierre et André ne demandent rien à Jésus. Hein. Ils lui parlent simplement de la belle-mère de Simon qui est malade. J'y vois là un modèle pour notre prière. Quand nous prions Dieu, parlons-lui humblement de nos proches, de leurs souffrances, de leurs fièvres. Mais il est bon, comme nous le suggère ce récit, de laisser à Dieu l'initiative de faire ce qu'il veut de nos prières. Il nous revient de croire et d'attendre. Guérira-t-il ? Choisira-t-il pour belle-maman un autre chemin que celui de la guérison ? Après avoir entendu Pierre et André qui lui parlent de cette proche malade, eh bien Jésus s'approche et la fait lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Elle se mit à les servir. Jésus relève donc la femme, lui rend la vie, il la vivifie. Elle est chargée à bloc de cette vie que Jésus vient de lui restaurer. Et je trouve que ce retour à la vie est spectaculaire. Elle est pleine d'une vie très dynamique. Je n'ai pas vu dans le texte, il n'y a pas grand-chose dans le texte, mais il n'y a pas d'étape de convalescence. Hein ? J'allais pas bien, puis là, il faut que je me remette doucement, parce que il faut du temps après ce que j'ai vécu. Pas d'étape de convalescence dans un fauteuil. Immédiatement, elle met en œuvre sa capacité restaurée d'agir, de décider, sa joie de servir. Il y a une explosion de vie, là. Après sa rencontre avec Jésus, il y a un retour à la vie qui est puissant et qui est immédiat. Aussitôt guérie, la femme se met à servir Jésus et tous les autres. Il n'est pas obligé, Jésus ne lui a pas dit « je te requinque pour que tu retournes au fourneau, hein ? On a faim, nous ?» Jésus n'attend pas en échange de la guérison un service de notre part. Il est juste là pour manifester le don gratuit de Dieu. Marc précise que la femme sert tous ceux qui se trouvent là, pas seulement Jésus. Voilà le service chrétien. Il n'est pas attribué exclusivement à l'Église et aux chrétiens. C'est souvent l'idée qu'on en a d'ailleurs. Qu'elle est au service dans l'Église. Mais ce n'est qu'une dimension du service chrétien, le service de l'Église. Le diaconat protestant, les engagements associatifs divers, qui cherchent à soulager la souffrance, qui œuvrent pour l'éducation, sont le service de l'Église pour le monde. Et toutes les personnes présentes ici ce matin qui vivent leur métier, je ne sais pas, d'enseignant, de soignant, d'aidant, comme un véritable service chrétien, ces personnes-là ont besoin de notre prière. Elles ont besoin d'être soutenues. Comme la belle-mère de Simon, ces gens au service servent sans se poser de questions, juste par envie, par conviction, et peut-être même par plaisir, je l'espère en tout cas. Servir, c'est mon cadeau, c'est ma liberté. Tel est le don gratuit de la reconnaissance. Le cœur de cette femme a été rendu vivant. Rien ne pourra désormais l'empêcher de chercher à partager ce bonheur autour d'elle avec ceux qui sont là, tous ceux qui sont là. C'est ça la grâce, elle est contagieuse comme la grippe. Elle se communique comme la joie, comme l'amour. Alors, saisissons la main du Seigneur qui s'approche de nos cœurs malades et laissons-nous relever et guérir de nos fièvres, sœurs et frères, chacun à la sienne. Cette grâce ne se contentera pas de restaurer nos vies, cette grâce va nous donner soif. Soif de vie, soif de rencontre, soif d'amitié pour ceux dont nous croisons la route. Elle nous enverra auprès de tous pour vivre et partager la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne guérison. Amen.